culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h, 17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans Franche Culture, patrimoine, spectacle, visite et initiative. L'Anjou va vous surprendre par sa richesse. Et nous sommes 7 dans l'émission pour satisfaire votre curiosité. Aujourd'hui, on part au fin fond du département, à la lisière des Deux-Sèvres, un village perché sur une butte calcaire, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Et tout de suite, du théâtre avec vous, Minouche, mais avec une touche d'imprévisible, vous recevez la Ligue d'improvisation d'Angers. Aujourd'hui, Minouche, vous nous présentez l'inverse d'une émission de radio, car si pour nous, tout est écrit avant le direct, pour la Lima, c'est exactement l'inverse.
Eh oui, Bénédicte, je reçois une spécialiste de l'improvisation, quelqu'un qui effectivement travaille sans filet. Bonjour Laure Navziger, est-ce que je dis bien votre nom?
Bonjour, oui, c'est bien.
Ça vous va?
Ça va.
Vous êtes joueuse et membre du CA de la Lima. Parlez-nous de la Lima, c'est quoi?
Alors,
ça veut dire quoi, Lima, d'abord?
Donc, la Lima, au départ, ça veut dire la Ligue d'improvisation du Maine-Anjou. Aujourd'hui, effectivement, on dit la Ligue d'improvisation angevine parce que c'est plus rapide et c'est plus clair pour tout le monde. Donc, c'est une Ligue d'impro qui a été créée en 1994. Donc, c'est une des plus anciennes Ligues d'impro françaises. Voilà, et donc aujourd'hui c'est une association qui regroupe des joueurs et des bénévoles autour du théâtre d'improvisation.
On va voir ensemble ce que ça veut dire l'improvisation. Vous êtes combien à peu près? Il y a combien de personnes dans cette ligue?
Alors, il y a en tout aujourd'hui une soixantaine de membres. Donc il y a trois groupes de jeux, donc un groupe match, un groupe cabaret. Et un groupe loisir qui est plus axé sur l'initiation, l'initiation à l'improvisation, au théâtre d'improvisation. Et après, on a aussi des bénévoles non joueurs qui nous donnent un coup de main sur l'organisation des spectacles.
Alors, dites-moi, parce que quand on parle de ligue, par exemple en sport, ça représenterait un département. Alors, la ligue d'Angers, est-ce qu'il y a une ligue à Cholet? Est-ce qu'il y a une ligue à Saumur? Comment ça se passe?
Alors oui, alors... C'est pas forcément des ligues, mais il y a des équipes, en tout cas des associations, des regroupements de plus en plus, puisque le théâtre d'improvisation fait de plus en plus d'adeptes. Donc il y a une ligue à Saumur qui s'appelle les Impropulsifs, il y a une ligue à Cholet, qu'on essaie de se rencontrer au moins une fois par an, et de plus en plus même à Chalonne. Voilà. Puis à Angers, il y a de plus en plus de groupes qui émergent,
d'accord. Alors vous nous avez dit, il y a trois groupes, il y a un groupe loisirs. Bon, ça, on comprend. Alors, le groupe loisir, c'est moi, par exemple, faire quoi?
Alors, en fait, si vous voulez, au départ, tout commence par un week-end qui s'appelle le week-end d'initiation, où c'est un week-end où on va présenter, on va faire des groupes. Il y a des gens qui veulent s'inscrire, qui veulent découvrir ce que c'est que l'improvisation. Et donc, on va leur présenter au travers d'ateliers, de jeux, ce que c'est que le théâtre d'improvisation. Et puis, si ça vous intéresse et que vous êtes tiré au sort parce qu'on a beaucoup de personnes intéressées, on vous propose d'intégrer le groupe loisir. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui n'a en général jamais fait d'impro ou qui souhaite recommencer son année parce que c'est moins d'investissement.
Je vous arrête, mais pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est quoi l'impro? Est-ce que c'est, je vais vous dire... vous êtes une dame qui marchait dans la rue et vous allez me jouer ça?
Ça peut. En fait, l'improvisation, c'est à la base de la base, c'est raconter une histoire. Comment on fait pour raconter une histoire à quelqu'un? Alors, on pense, nous, d'abord rire et humour, blague, c'est ça, surtout ça. Mais c'est surtout raconter une histoire avec soit un personnage, soit un lieu, soit une intrigue, soit une contrainte qu'on va s'imposer.
Pour que les gens comprennent bien, il n'y a pas de texte. On n'apprend pas un texte pour le jouer quand on fait de l'impro.
Voilà, on n'apprend pas un texte. Après, on parle quand même pendant nos impros. Ce n'est pas des impros muettes, mais ça peut l'être, par exemple. On peut faire une impro avec que des bruitages ou avec un langage imaginaire ou parler tout simplement. Mais on n'apprend pas, en fait, on ne sait pas à l'avance ce qu'on va jouer.
Donc là, on est au groupe loisirs. Et puis après, vous avez deux groupes de joueurs confirmés, ça vous m'avez dit ?
C'est ça, tout à fait. Il y a un groupe, et là en fait on les différencie par le format. Donc il y a le format cabaret et le format match.
On va commencer par le cabaret si vous voulez bien.
Donc le format cabaret en fait c'est 4 à 5 joueurs qui forment une équipe et un animateur de soirée, si vous voulez, un maître de cérémonie, qui va préparer des petits jeux de théâtre, des petits jeux d'impro, qui va proposer au public et aux joueurs ces petites impro. Donc ça va donner des scénettes qui peuvent aller de 2 minutes à 7-8 minutes.
Et le maître de cérémonie va dire, il va donner un sujet, et puis après il va dire 3 minutes, 10 minutes.
Voilà, si je vous donne un exemple, en fait le maître de cérémonie va dire, la prochaine improvisation sera une improvisation... avec un jeu type alphabet, donc la contrainte de l'alphabet, c'est toutes les répliques doivent commencer par à chaque fois la lettre de l'alphabet, donc ABC, voilà. D'une durée de 2 minutes, nombre de joueurs, voilà. Et puis, vous avez le droit à une petite réflexion d'une vingtaine de secondes qu'on appelle caucus, donc il dit caucus. Les joueurs réfléchissent quelques secondes et mise en place, voilà, jouteur en place. Et un pro, et puis ça démarre.
Et là, on est contre une autre équipe ou pas du tout ? On fait un spectacle pour les gens qui sont
voilà,
là.
Voilà, c'est ça. C'est une équipe qui se produit, qui fait tout le spectacle.
Alors maintenant, on en arrive à au deuxième groupe, qui est assez drôle, parce que moi, je l'ai vu une fois. Donc racontez-nous, c'est le groupe match, hein,
c'est ça ? Le format match, oui. Mmh. Donc là, en fait, c'est... alors, pour vous expliquer d'où ça vient, c'est que le théâtre d'impro, à la base, ça vient du match d'improvisation. Et le match d'improvisation, ça a été inventé au Québec pour ramener les gens dans les salles de spectacle. Parce qu'il y avait trop de gens, il n'y avait plus de gens dans les salles de théâtre. Et en fait, ils ont décidé de récupérer les codes des matchs de hockey sur glace, qui étaient très populaires. Et donc, en fait, aujourd'hui, le match d'improvisation s'inspire de ça. Donc, on parle de patinoire, on a des maillots. L'arbitre, il a un maillot blanc avec des rayures noires, comme
alors,
les matchs de hockey.
Pour nos auditeurs, on parle de patinoire. Ça ne se passe pas dans une patinoire, c'est la scène, en fait. Hein,
voilà, c'est ça.
Qui ressemblerait à une patinoire.
C'est le vocabulaire qu'on utilise. Oui. C'est une espèce de cadre qu'on donne voilà, et qui est symbolisé par un vrai espace, en fait. Hein, voilà,
rouge et c'est blanc. Vrai que c'est curieux de voir les acteurs qui sont en maillot de hockey. Enfin, ça ressemble à des maillots de hockey.
C'est
hein.
Des maillots de sport, en fait, si vous voulez. Hein. Et donc, il y a un arbitre et deux équipes qui s'affrontent. Donc, et là, après, le principe est le même. L'arbitre va dire, voilà, la prochaine improvisation sera une improvisation de catégorie intel et... la durée, le nombre de joueurs, et voilà.
Bon, d'accord. Et dites-moi, je vous coupe un peu parce que le temps passe, c'est passionnant, mais le temps passe. Parlez-nous un peu de votre actualité à la Lima, parce qu'il me semble que vous avez un gros week-end qui approche.
Tout à fait. On organise le Titan, qui est un tournoi d'improvisation. On a donc fait appel à plusieurs équipes de toute la France. Ça a lieu à la salle Jean Carmet à Mur-et-Régnier du 26 au 28 mai. 2023. Voilà,
Et ce sera, dites-moi, juste une question, ce sera des ligues, différentes ligues qui vont s'affronter ?
Oui.
Il y aura
quatre équipes. Il y a une équipe de Dijon, et là, j'ai plus en tête toutes les équipes. Il y aura la Lima, une équipe de Dijon.
D'accord, donc ça va représenter pas mal de participants. Ouais. Et vous allez vous batailler pendant 2 jours, quoi, c'est ça ?
Voilà, 3 jours même, du vendredi soir au dimanche après-midi.
Pour qu'il y ait un gagnant à la sortie.
Voilà, et il y aura aussi d'autres types de spectacles. Il y aura aussi des cabarets qui seront proposés en deuxième partie de soirée pour...
D'accord, c'est toute la journée ? C'est toutes les journées ou c'est que le soir ?
Alors, c'est le vendredi soir, le samedi après-midi, samedi soir, dimanche après-midi.
Eh bien, écoutez, très bien. Alors, on vous retrouvera donc à Mur-et-Régnier du 26 au 28 mai. Et puis, ben, merci, Laure Navziger. Et vous pouvez retrouver toutes les infos sur la Lima sur le site www.asso-lima.fr.
Et tout de suite, alors, on écoute Jeanne Hadid. Au revoir, qui passera au Shabada, mais je crois que tout est complet.
Ce n'est qu'un au revoir, ce n'est pas la fin. Je ne mentirai pas, tout ne va pas bien, mais ce n'est qu'un au revoir. Jusqu'à demain, je ne te l'apprends pas. Le contraire de tout n'est pas rien.
Je sais. je m'en vais pour de bon. Pourtant, si amer que soit mon départ, tu sais que rien ne s'arrête jamais complètement. Il y a encore de toi dans mes sentiments.
Dans Franche Culture sur Radio Campus. Alors c'est au revoir par Jeanne Haden, mais ne nous quittez pas. Et justement, l'équipe de Franche Culture est partie en reportage. Alors, 1200 ponos et ponotes, 103 mètres d'altitude, 100 km de galeries troglodytes et de caves. Où sommes-nous ? Eh bien, bienvenue au Puy Notre-Dame. Alors, petite cité de charme à la lisière du Poitou entre Douai et Thouars, qu'on appelle aussi le petit Mont-Saint-Michel-Angevin. Pourquoi ? Parce qu'on l'aperçoit, on aperçoit sa collégiale de très loin, perchée sur une colline, avec autour non pas des sables mouvants, mais de grandes plaines céréalières et des vignes. Pour nous en parler, l'équipe de Franche Culture est reçue par Isabelle Isabellon, la maire de la commune.
Alors aujourd'hui, pourriez-vous nous expliquer pourquoi le Puy Notre-Dame a été si renommé ?
Alors c'est une très longue histoire qui débute au XIe siècle. À l'époque, le Puy Notre-Dame dépendait du comté de Poitiers. Et en fait, Guillaume IX, comte de Poitiers, s'est converti à la religion catholique et est parti en Terre Sainte où il a rencontré le patriarche de Jérusalem qui lui a fait cadeau de la Sainte Ceinture de la Vierge Marie. Donc il est revenu avec cette relique ici en Poitou et donc s'est installé comme ermite autour du Puy Notre-Dame. Et il existait à l'époque un prieuré qui avait été installé justement sous l'égide de Montière-Neuf au Puy Notre-Dame. Et il s'est rendu compte qu'autour de l'église priorale, qui était très simple à l'époque, il y avait quand même une grande ferveur autour de la Vierge Marie. Alors, c'est écrit nulle part, mais moi, je me suis posé la question, parce qu'avec cette venue de la Sainte Ceinture et cette ferveur autour de la Vierge Marie, y avait-il eu des miracles ou apparitions avant qui n'ont pas été recensés ? Je ne sais pas. Voilà, mais bon. Donc, il décide, devant cette ferveur, de faire cadeau aux prieurs de la Sainte Ceinture de la Vierge. Et là, donc, commence cette Sainte Ceinture de la Vierge, pardon, je précise qu'en fait, elle a pour vertu de faciliter la naissance des enfants mâles à l'époque et surtout la délivrance des femmes et faciliter des femmes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants de tomber enceinte, en fait. Donc, il y a une grande ferveur, effectivement, qui s'opère autour de ça. Et il y a un grand nombre de pèlerins qui viennent adorer, en fait, et prier la Sainte Ceinture. Là-dessus se greffe l'histoire, la petite fille de Guillaume IX, qui n'est autre qu'Aliénor d'Aquitaine, donc, qui venait souvent donc, prier la Sainte Ceinture au Puy Notre-Dame. C'est peut-être pour ça après qu'elle a eu tant d'enfants d'ailleurs. Et donc, avait un petit château qui se trouvait, quand on sort de la collégiale à droite, rue de l'Éperon. Et elle venait souvent ici. Et un jour, elle décide que, ma foi, la priorale telle qu'elle est n'est peut-être pas digne reliquaire de la Sainte Ceinture et décide de construire la collégiale telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui n'est pas à l'époque une collégiale, mais qui est une grande église dans le style plantagenet. Voilà. Et donc, ce qui est très étonnant, c'est que cette construction, c'est juste un petit passage, a été faite en une seule fois. Elle est sur le modèle de la cathédrale de Poitiers. Et donc, cette construction se fait et donc augmente encore le rapport. Donc, ça permet d'avoir encore plus de pèlerins puisque l'édifice étant plus grand. Et à l'époque, on a découvert des choses amusantes dans les archives. C'est qu'il y avait un grand nombre de chirurgiens qui étaient installés Donc, dans le Puy Notre-Dame, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui venaient carrément accoucher, même jusque dans l'église, devant la Sainte Ceinture, pour que tout se passe bien. Il faut dire qu'à l'époque, la Sainte Ceinture était très libre d'accès, c'est-à-dire qu'on pouvait la mettre sur le ventre des femmes. C'était pas comme aujourd'hui où elle est enfermée dans sa vitrine. Donc, c'était beaucoup plus facile pour avoir accès à la Sainte Ceinture. Elle était exposée, en fait.
Et cette collégiale, est-ce que Dominique, vous pourriez nous la décrire d'un point de vue architectural ?
Volontiers, parce que c'est évidemment l'édifice emblématique de la commune. On l'aperçoit dès qu'on a quitté la rocade de Douai-la-Fontaine. On est déjà à 5 km, elle domine complètement. Et comme vous l'avez bien expliqué, Madame le maire, c'est un édifice qui a été construit en une seule fois. Et c'est donc l'édifice le plus représentatif de l'art gothique plantagenêt en Anjou. C'est très simple à expliquer, il suffisait de se baisser pour trouver la pierre qui a permis la construction de l'édifice, puisque le Puy Notre-Dame, c'est une montagne de tuffeaux au milieu des grandes plaines. Alors pourquoi ce style gothique plantagenêt ? Et bien, tout simplement parce que le roi Henri II Plantagenêt a commandé... au moment de son règne, deux établissements hospitaliers extrêmement importants qui sont l'hôpital Saint-Jean à Angers et l'hôpital de Couëfort au Mans. Et au cours de sa commande, il a fait appel aux meilleurs artisans, aux meilleurs maîtres maçons qui ont développé un nouvel art de construire une architecture à partir d'un matériau particulier qui est le tuffeau. Le tuffeau, c'est une pierre très tendre, c'est une pierre qui se taille facilement, qui est beaucoup plus légère que les autres pierres calcaires, et donc qui a permis l'établissement d'une nouvelle structure, c'est-à-dire une voûte extrêmement bombée, portée par 8 nervures au lieu de 4 traditionnellement, reposant sur des piliers généralement assez fins parce que les voûtes ne sont pas trop lourdes. Et comme elles sont très bombées, on n'a pas besoin de construire d'arc-boutant. C'est ce qui fait l'originalité de cet art gothique plantagenêt, souvent limité à des extensions d'églises comme l'église Saint-Serge d'Angers, comme l'église Saint-Pierre de Saumur. Là, ce qui est extraordinaire, c'est que la totalité de l'église est construite suivant ce style-là. Et en plus, les bas-côtés sont à la même hauteur que la nef centrale. C'est ce qu'on appelle une église halle. C'est-à-dire que ça donne des verrières latérales qui sont extrêmement élevées et qui donnent une lumière jusqu'à l'intérieur de l'édifice. C'est un édifice incontournable à regarder quand on se promène en Anjou.
Et très rapidement, la Révolution passe et évidemment la collégiale a des soucis.
Oui, tout à fait. Donc là, je te dis juste à rappeler au passage, excusez-moi, que en fait, le passage de Louis XI, quand même au Puy Notre-Dame, est un tournant pour la commune parce qu'il décide d'y installer exactement le 21 janvier 1481 un chapitre de chanoine sur le modèle de la Sainte-Chapelle de Paris. Et donc, cette installation se fait, et c'est là que la collégiale devient collégiale, parce que donc, c'est un collège de chanoines qui s'installe. C'est aussi le début d'une grande richesse de la collégiale, il y laisse un trésor, etc., qui sera convoité, donc justement, comme vous dites, au moment de la Révolution, mais bien avant par les Huguenots lors des guerres de religion, mais qu'il avait été protégé fort heureusement à l'époque et déménagé dans un autre endroit, ainsi que la Sainte Ceinture. Au moment de la Révolution, en fait, effectivement, tout est détruit, y compris un orgue qui avait été construit à l'époque, au temps justement de Louis XI, au-dessus de la porte d'entrée. On peut difficilement l'imaginer parce qu'aujourd'hui, il ne reste rien. C'était un orgue qui avait été construit par le facteur d'or, M. Houry, qui est à l'origine aussi de la construction de l'orgue de la cathédrale de Saintes. Et en fait, c'était exactement la copie de cet orgue qui existe toujours aujourd'hui. Donc, si vous connaissez cette cathédrale à Saintes, vous pourrez avoir une pensée émue pour le Puy Notre-Dame qui avait le même. Et donc, du coup, au moment de la Révolution, effectivement, tout est détruit. Le trésor est dilapidé. Parce qu'il y avait quand même des statues en argent, des calices en or, etc. Tout est dilapidé. Et fort heureusement, une fois de plus, les habitants protègent la Sainte Ceinture. C'est un habitant qui la garde et qui la restituera que dans les années 1802 ou 1803, il me semble. Donc voilà. Ce qui fait que cette Sainte Ceinture, quand même, c'est extraordinaire. Depuis ce temps, tout ce temps est aujourd'hui encore dans la collégiale.
Voilà. Elle est restée toujours au même endroit. Et on a vu donc que cette collégiale avait été très abîmée pendant la Révolution. Elle va mettre beaucoup de temps à retrouver un peu de sa splendeur.
Oui. Alors là, c'est l'architecte Joly Le Terme qui venant voir la collégiale au Puy Notre-Dame, qui était totalement délabrée, parce qu'il faut se dire qu'après la Révolution, elle a servi quand même de grange pour battre le blé. Tout a été détruit. Les stalles ont été aussi démontées et jetées dans un coin. Enfin bon, c'était quelque chose d'ahurissant. Et donc là, la collégiale, ouverte à tout vent parce que les vitraux brisés et effectivement la pluie est rentrée. Donc on peut imaginer l'intérieur, ce que ça devait être. Et c'est donc dans les années 1850, M. Joly Le Terme qui réussit à faire un devis qui se montait à près de 30 000 francs pour le début d'une restauration. Et c'est grâce à l'intervention de... Prosper Mérimée, merci, j'ai un trou, de Prosper Mérimée, et aussi l'intervention d'un habitant du Puy Notre-Dame qui habitait Sanzier, qui habitait le château du Lys. Sanzier qui a été à l'époque maire de Saumur et qui à l'époque était sénateur, monsieur Louvet, qui ont vraiment contribué à ce que la collégiale réussisse à être classée et réussisse à être restaurée. Une restauration assez vertigineuse, parce que en fait, il est dans des écrits, on a retrouvé que toutes les voûtes ont été échafaudées pour permettre la construction des piliers. Donc, on peut dire la reconstruction de tous les piliers de la collégiale. Donc, on peut dire qu'à un moment donné, les voûtes ont été en suspension sur des échafaudages. Et c'est extraordinaire de l'imaginer. Donc, chapeau pour les architectes et les bâtisseurs de l'époque. Même dans les années 1850, ce n'était pas sans doute très évident. Voilà.
On a compris que la collégiale valait le détour, mais pas uniquement la collégiale. Le village lui-même conserve encore de beaux restes.
Oui, alors toutes les rues autour de la collégiale ont gardé le tracé moyenâgeux. Hein. C'est vraiment un bourg avec ses petites rues, avec des vestiges. Je vous engage à aller vous promener donc, et passer peut-être à la mairie, prendre un petit dépliant qui décrit réalisé par un des anciens maires de la commune, d'ailleurs, Monsieur Monnier, qui décrit le parcours découverte, un circuit historique autour de la collégiale dans le bourg. Donc, oui, effectivement. Alors, toutes les maisons avec des tours qui existent dans le bourg sont les anciennes maisons de chanoines qui ont été construites. Donc, il y en a une douzaine dans la commune qui sont très belles. Et des plaques de rue, parce qu'il y a une vingtaine d'années, il existait une grande fête au Puy Notre-Dame qui s'appelait la fête du vin et du champignon, et au cours de laquelle il y avait un concours organisé par les tailleurs de pierre qui devaient tailler des plaques de rue sur les thèmes du nom de la rue, en fait. Donc, toutes ces plaques sont affichées et sont très belles pour certaines, affichées dans les rues du Puy Notre-Dame.
Et ce village était protégé par une enceinte. Il y avait aussi des portes dont on a quelques restes.
Oui, alors il reste une porte, un octroi à rue de la Courneau. Donc, c'est sur ce circuit historique. Et il reste à un moment donné aussi dans la rue Sainte, en descendant à gauche, le gond de l'ancienne porte de la ville.
Oui, c'est toujours aussi grâce à la présence du Tuffeau et de ses carrières au Puy Notre-Dame qu'on doit toute cette collection de maisons anciennes. Moi, j'étais très impressionné par les vestiges architecturaux de ces maisons, soit médiévales, soit renaissance. Il y a des très très beaux témoins, des très belles moulures d'encadrement des ouvertures. Il y a de très belles moulures de corniches. Et puis globalement, on retrouve bien l'architecture traditionnelle de ces maisons avec des très hautes toitures d'ardoise et des tourelles qui sont soit circulaires, soit hexagonales. Chacune a des détails qui les différencient les unes des autres, mais elles forment toutes ensemble un contexte particulier qui accompagne parfaitement bien l'église principale.
On a bien compris d'où venait la richesse du Puy Notre-Dame, pourquoi ce petit bourg avait un tel retentissement à l'extérieur. Mais aujourd'hui, de quoi vit-on au Puy Notre-Dame ?
Alors aujourd'hui, en fait, effectivement, il y a la vigne. Donc, parce que on est quand même en surface la plus grosse commune viticole du Saumurois. Et donc, au départ, il y a quelques années, dans les années... je pense que c'était dans les années... Je vais peut-être dire des erreurs. Alors, faut me pardonner parce que l'histoire des vignerons... dans les années, je pense, 50 avant, c'était beaucoup de chenin. En fait, le principal cépage qui était planté, c'était plutôt du vin blanc. Or, en fait, c'est ça. C'est dans les années 50. Voilà, je savais bien qu'il y avait quelque chose avec les années 50. Il y a les gens ont commencé à apprécier les vins rosés. Et donc, il y a eu quelques vignes de Cabernet Franc qui ont été plantées. et pour faire du rosé, parce que c'était la demande à l'époque. Et il y a un certain viticulteur qui s'appelait Monsieur Hopi, qui, quelques années plus tard, a commencé à faire, à produire un vin rouge à partir du Cabernet Franc. Donc, il s'est lancé, ça a marché. Et du coup, c'est un peu, on peut dire, grâce à lui, si aujourd'hui on a une AOC Saumur Puy Notre-Dame qui date de 2009, qui est la plus jeune AOC de France, et qui donc est une AOC sur du vin rouge, un vin rouge qui est à l'origine, enfin avec comme cépage le Cabernet Franc.
Vous avez du vin et vous avez aussi des champignons, non ?
Oui, alors justement, à l'époque, il y a beaucoup, il y a plusieurs années, dans les années, il y avait le Puy Notre-Dame était une grosse, la plus grosse commune qui utilisait le plus grand nombre de personnel dans les caves, parce que les champignons étaient produits dans les caves. Et donc, c'était extrêmement dynamique. Il faut imaginer la rue Notre-Dame, hein, les anciens m'en parlent encore quand je les croise, qui avait une multitude de magasins, plusieurs enseignes de banques, qui était là, etc. Et c'était vraiment un village, je vais le dire, qui suffisait à lui-même, mais presque une petite ville, en fait. Donc, avec la venue, la fin de la culture du champignon en cave, hein, ben, tout ça est tombé, enfin, a été abandonné, excepté, nous avons encore un résistant qui est à Sanzié, qui est la cave vivante du champignon, M. Jacques Rouleau, qui continue à cultiver le champignon en cave comme autrefois, d'ailleurs qui sont délicieux. Et je vous encourage à aller visiter cette cave, parce qu'il y a en plus, il a créé un musée à l'intérieur pour raconter la vie d'autrefois, parce qu'il y avait énormément de gens jusque dans les années 65, qui vivaient dans des troglodytes, ici, au Puy Notre-Dame, parce que pas dans le bourg lui-même, mais dans les villages alentours, en particulier à Chavannes, et Sanzié aussi, il y a des maisons troglodytiques. Et là, il y avait encore des familles qui vivaient jusque dans les années 65.
Et Madame Isabelle Long, quels sont les projets de la mairie? Quels sont vos projets pour le Puy Notre-Dame dans les années à venir?
Alors, le Puy Notre-Dame ben, se transforme. Déjà, nous sommes en train de refaire la rue principale, de la commune, la rue Notre-Dame, parce que ça devait être fait. Ensuite, bah, c'est surtout au niveau de la voirie. Nous avons aussi une chance au Puy Notre-Dame, c'est d'avoir un tissu associatif extrêmement important. Et donc, avec des grandes animations et des incontournables, je ne vais pas vous parler du Grand Prix rétro du Puy Notre-Dame, qui tous les ans, fin juillet, fait venir des voitures anciennes pour faire un circuit dans le bourg. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Et puis, depuis 2 ans, l'Association pour l'essor du Pays Pono, qui crée un festival de musique les 8 et 9 juillet, dans laquelle, en fait, on va faire un système de grandes tablées. La commune aussi participe à des on finance des cinémas en plein air depuis cette année, des pièces de théâtre, etc. On essaie d'avoir quelque chose de dynamique. On avait, au niveau des artisans, on a quand même beaucoup d'artisans. Bon, les vignerons, ça, c'est... effectivement, les vignerons indépendants, il y en a un très grand nombre sur le Puy Notre-Dame et qui ont leur cave ouverte. Hein, donc, si vous venez, vous pouvez toujours vous adresser à eux. Et puis, il y a des artisans, un métallier. Nous avions une usine Rénoval, mais qui ne pouvant pas s'agrandir parce que ici, la terre est très chère. Évidemment, c'est de la vigne tout autour. Donc, on ne peut pas s'agrandir, on ne peut pas construire. Donc, ils sont partis sur Saumur, mais... voilà. Et donc, voilà. Donc, il y a plein d'entreprises, des artisans, un hôtel. Enfin, voilà. Je pourrais parler encore longtemps. Hein, donc, j'arrête.
Merci beaucoup, Madame Isabelle Long.
Projet pas. Ah oui. Est-ce que vous pouvez nous parler des projets au niveau du patrimoine que vous avez?
Oui, au niveau du patrimoine, donc là, on a lancé une étude globale de la collégiale par le cabinet architrave d'Angers, qui vont nous faire, c'est en fait indispensable pour pouvoir après évaluer les travaux les plus urgents qu'il y a à faire au niveau de la collégiale et surtout obtenir des subventions, puisque ça, c'est le nerf de la guerre, l'argent. Au niveau de la direction régionale des affaires culturelles, ce sont eux qui nous aident généralement, ou l'union départementale de l'architecture. Et après, on évalue les travaux. C'est eux qui vont évaluer les travaux, l'urgence des travaux. Et on va se lancer. Ça, on va rentrer dans une seconde phase de travaux.
Concrètement, qu'est-ce que vous allez...
C'est eux qui vont le décider suite à l'étude. Là, on ne sait pas. Ils vont nous dire, c'est telle partie de la collégiale qu'il faut commencer en priorité. Donc nous, on attend. On attend.
Merci beaucoup, Madame Isabelle Long, de nous avoir reçus et d'avoir consacré votre matinée. J'espère que là, personne ne peut ignorer l'importance et la beauté de ce village, le Puy Notre-Dame.
Voilà, c'était le Puy Notre-Dame avec Isabelle Long.
Franche culture. La curiosité sous toutes ses coutures.
C'est la fin de ce Franche culture. 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Merci à Émilie pour la technique. Et puis retrouvez-nous un mercredi sur deux en direct à 17h, le dimanche à 11h ou bien sûr en podcast. Et n'oubliez pas, la curiosité se partage sur les réseaux sans modération. Très belle semaine à tous.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.